Manitou, la famille d'Abraham, troisième bande.
Vous êtes donc au premier verset du chapitre 22, la première page. Vayi, achar advarim haele, la traduction directe c'est et il arriva après ces. Après donc les événements qui ont été racontés précédemment. Il y a beaucoup d'études à avoir sur cette formule. Mais nous allons voir que le Midrash va lire le mot de Dvarim, non pas dans le sens les événements, mais dans le sens les paroles. Dispose à nous, du point de vue de l'exégèse, c'est est-ce que le récit qui commence ici est uniquement ultérieur au récit précédent, ou bien est-ce qu'il y a la conséquence des événements qui sont racontés précédemment? Alors la ligne de lecture que les Midrashim vont choisir, c'est qu'il y a une conséquence de ce qui s'est passé précédemment. Et le mot de Dvarim est traduit habituellement par les événements, mais il a aussi le sens des les paroles. Et le Midrash va se demander quelles paroles ont été prononcées et qui puissent nous faire comprendre pourquoi cette mise à l'épreuve d'Abraham, à propos de ce que l'on nomme donc en français le sacrifice d'Isaac, en hébreu Akedat Israq, j'y reviendrai, a dû être imposé. Donc, Vayi Ahar Advarim Haele, la traduction directe c'est après les événements précédents, et nous aurons à nous interroger quels événements et de quels événements procèdent les paroles explicatives du fait que, en conséquence, il arrive ceci. Vayi Ahar Advarim Haele, Ve Ha Elohim Nissa et Abraham. Nous verrons dans le Midrash que nous allons étudier que le terme Veha Elohim, qui signifie Dieu dans la traduction directe, va être étudié dans la forme précise qu'il a dans ce verset. D'abord, c'est le terme de Elohim, que nous prononçons Elohim, qui désigne la médiation de la Midat HaDin dont nous avons parlé suffisamment hier, c'est-à-dire la médiation, l'attribut de justice stricte, de rigueur absolue, de mise en jugement. Mais cela est précédé de deux lettres, V-H-A Elohim. Il faut donc que nous comprenions, le Midrash va nous aider, Elohim et Elohim, et V-H-A Elohim est simplement H-A Elohim ou Elohim. Pour les hébraïsants, je pense que la question est suffisamment claire, mais j'essaierai d'expliquer en français qu'il y a effectivement une intention particulière de la formule qu'emploie ce verset pour dire « Et Dieu, Nissa et Abraham, a mis à l'épreuve, a éprouvé Abraham. » À propos du terme que je viens de vous traduire par « mettre à l'épreuve, éprouver », le Midrash va, encore une fois, déployer toutes les significations de cette racine. Qui a d'autres significations. Il y a en fait, en particulier, deux significations fondamentales que le Midrash ajoute. Nes signifie un miracle et Nes signifie une bannière, un drapeau. Le fait de mettre en évidence la valeur d'Abraham a élevé la bannière d'Abraham. Ou le fait que Abraham a été confronté avec un miracle que l'on va nous raconter. Mais le sens direct, c'est « a mis à l'épreuve ». Nisayon, c'est un terme qui signifie « l'épreuve ». Dans le sens habituel du terme, une expérience de mise à l'épreuve. Une expérience dans le vocabulaire scientifique de l'hébreu moderne se dit « nisayon ». Et « nisayon », ça signifie aussi « une épreuve ». Et Nes signifie un miracle et Nes signifie une bannière. Je vous signale en passant les différents midrashim que vous trouverez à propos du terme de Nissa. Et comme nous avons déjà dans les exemples précédents, tous ces sens sont unifiés dans le terme hébraïque. Et Abraham. Donc ceci est clair, il s'agit d'une épreuve pour Abraham et non pas pour Isaac. Alors je vous rappelle très brièvement ce que nous avons appris précédemment sur ce point. Abraham est le juste de la vertu de charité. est donc une mise à l'épreuve du côté de la justice, du côté de la tribu de rigueur, et bien une mise à l'épreuve pour Abraham. J'explique. Le fait de demander à Abraham, qui est l'homme de la charité, une épreuve qui consiste à, en fin de compte, sacrifier son fils, c'est contradictoire. Nous allons voir que le sacrifice n'a pas lieu. Mais pour Isaac, qui est le juste de la Midat Hadin, c'est-à-dire de la valeur de la justice stricte absolue, ce n'est pas du tout une épreuve. C'est ce que je voudrais mettre en évidence très rapidement dès le début. Est-ce que l'idée vous est suffisamment claire, Ken? Donc le verset est finalement très précis. L'épreuve est pour Abraham et non pas pour Isaac. C'est-à-dire, si en lisant le récit, on s'étonne du fait que Isaac semble être consentant, eh bien, la formule même du verset nous l'explique, il n'y a pas d'étonnement à avoir. Pour Isaac, il ne s'agit pas du tout d'une mise à l'épreuve, mais d'une expérience qui va dans l'ordre de l'évidence de sa vertu propre. Alors, je vous rassemble différents midrashim qui expliquent cela. La mida, la tribu, la vertu de Din réclame que la créature justifie le fait d'avoir été créée. La création, la créature, le fait d'avoir été créée nous est donné par la Midat HaChesed. Nous sommes créés en grâce avant de l'avoir mérité. Lorsque la Midat de Din intervient, alors elle réclame une justification du fait d'avoir été créée dans l'ordre du mérite. Elle réclame le prix de la grâce qui a été reçue. Et je pousse les choses à la limite, schématiquement, pour que ce soit bien clair. Il y a d'abord un don de l'être qui est charité gratuite. Et l'existence commence. Et dans l'existence apparaît, relié à l'existence, apparaît la Midat Hadin. C'est-à-dire le fait que l'on doit justifier, mériter, acquérir ce que l'on a reçu en grâce. Ça, c'est la Midat Hadin. Et par conséquent, pour Yitzhak, qui est le tzaddik, dont l'essentiel, l'essence de la vertu est la Midat Hadin, le fait que cette épreuve advienne, pour lui, ce n'est pas une épreuve. C'est une évidence de l'ordre de la vertu qui est la sienne. On pourrait expliquer encore dans un autre vocabulaire, mais il me semble que c'est suffisamment clair. Ce à quoi il faut s'habituer, c'est que Abraham est un tzaddik, un juste, Yitzhak est un tzaddik, un juste, mais pas du tout de la même valeur, dans le sens absolu du terme valeur, pas du tout de la même vertu. Ils sont sosies en tant qu'ils sont tzadikim, nous dira le Midrash, et pourtant leur expérience intérieure de l'absolu a un visage différent. Or, ces deux vertus sont toutes deux authentiques, et nous avons déjà appris hier qu'elles ne suffisent pas lorsqu'elles sont isolées l'une de l'autre, lorsqu'elles sont coupées de l'unité des valeurs, elles ne suffisent pas à fonder l'être que Dieu avait voulu créer, notre existence. Il faudra attendre la troisième étape, Jacob, où elle s'unifie. Mais nous sommes pour le moment dans la deuxième étape, l'identité de Yitzhak en tant que tzaddik de la Midat Hadin. Pour lui, ce n'est pas une épreuve. Lorsque la Midat Hadin se dévoile et lui réclame le prix de son existence, le rachat. Mais le rachat dans le sens hébreu du terme, l'achat, l'acquisition. Et il n'y a pas d'autre prix de l'existence que l'existence elle-même. Par conséquent, Isaac est prêt à ce qui va se passer. D'emblée, par principe, l'épreuve est pour Abraham. Si ceci est suffisamment clair, on a bien avancé dans le sujet. C'est clair jusque-là ? Pas du tout. Et nous allons le voir tout à l'heure. Quel est le résultat de cette épreuve pour Isaac? Il est très important, nous le verrons ensuite d'étude. Si je ne pense pas à ce problème, vous me rappellerez la question à la fin. Il y a une autre question? Alors ça justifie l'emploi du terme de Veha Elohim par le verset. Un des midrashim que nous n'avons pas étudié aujourd'hui, dit, je l'ai cité au début de cette étude, Ve Hashem lo ne'emar, et là, Ve ha'elokim. Il n'est pas écrit, et Hashem éprouva Abraham. Abraham s'est déjà justifié comme juste par rapport à Hashem. Mais c'est ha'elokim qui éprouve Abraham. Alors, retenons que nous sommes en monothéisme absolu, Hashem hu ha'elokim, mais le long du dévoilement des étapes de l'acquis de l'être dans l'existence, c'est suivant les étapes, tel ou tel mida, tel ou tel attribut en dominante qui se dévoile. C'est clair jusque-là ? Et lorsque se dévoile cette mida tadin, alors apparaît l'épreuve dont nous allons suivre le récit, et qui, à la limite, je voudrais que la définition soit claire, il n'y a pas d'autre prix de cette épreuve que rendre l'existence. Pour la mériter, il faut la rendre. Moi, je le dirais déjà en anticipant, dès que, devant cette Midat Hadin, Isaac est prêt à rendre son être, il l'a acquis et c'est à lui. Donc le sacrifice n'aura pas lieu. Le sacrifice n'a pas lieu. Ce qui a lieu, c'est l'épreuve. Et tant qu'on est en cours d'épreuve, on ne sait pas que le sacrifice n'aura pas lieu. C'est-à-dire, l'épreuve est d'un sérieux absolu. Pendant que cela se passe, ni Abraham, ni Isaac, au niveau de la réalité, ne savent quelle sera l'issue. Abraham le sait par la foi, et Isaac le sait par espérance. C'est-à-dire, Isaac espère que l'épreuve ira jusqu'à l'au-delà. Tandis que Abraham sait qu'il est impossible que le sacrifice ait lieu. Garçons, jeunes gens, ça c'est du français, enfin, Néharim en hébreu, et qu'il leur dit, nous allons aller jusqu'à l'endroit, et puis nous reviendrons vers vous. Donc Abraham savait qu'il reviendrait, et lui et Isaac, mais il le savait par la foi, il ne le savait pas au niveau de l'expérience, de l'épreuve, de l'existence, puisqu'ils allaient en principe à un sacrifice à consommer. Donc il y a deux niveaux. Voilà, je crois que j'ai répondu à votre question suffisamment. Et à ce propos, nous allons voir ce que dit le Midrash. Alors je reprends le postulat ou l'intitulé du Midrash. D'après le verset, le mot de Dvarim signifie les événements. Mais le Midrash va lire ce mot à un autre niveau. Certaines paroles ont été prononcées qui ont été la cause de ce qui vient en conséquence des événements précédents. C'est donc la méthode que le Midrash va prendre. Nous verrons tout à l'heure, mais je vous l'indique déjà à l'avance, parce que c'est un sujet assez ample. Les événements précédents, eh bien, vous n'avez pas le texte sous les yeux, mais vous verrez vous-même dans le texte de la Genèse, à la fin du verset du chapitre 21. C'est que Abraham a contracté alliance avec Abimelech, qui est le roi de la Philistée. Et le verset précédent, je vais vous le lire dans le texte, dit que Abraham s'est installé. Vous l'avez au verset 32. Je vais lire au verset 34. Ça suffira. Verset 34 du chapitre 21. Vayagor Abraham be'eretz Pelishtim yamim rabim. Et Abraham séjourna au pays des Philistins de nombreux jours. Or, quel est le pays des Philistins ? Il y a deux réponses nécessaires. Quand on dit dans le texte, le pays des Philistins, c'est quoi ? Eretz Pelishtim. Là, Palestine. Non, attendez. Aujourd'hui, d'après les journaux, la Palestine, on ne sait pas encore ce que c'est. Bon, le terme de Palestine a désigné, une minute. Oui, le terme de Palestine a désigné depuis les Romains tout Eretz Knaan, tout Eretz Israël. Et les Britanniques, lorsqu'ils ont reconquis la province sud de la Syrie sur les Turcs, ont appelé cette province sud de la Syrie, nous sommes en 1917, l'ont appelé Palestine, comme les Romains avaient appelé la Judée la Palestine lorsqu'ils ont détruit la Judée il y a 2000 ans. Ça, c'est la Palestine, c'est-à-dire c'est Eretz Israël. Mais la Philistie, dans le sens strict du texte, Eretz Pelishtim, c'est le territoire de Gaza, comme on dit aujourd'hui, en hébreu, Gaza, qui a été un des territoires les plus difficiles à conquérir depuis la sortie d'Égypte, même au temps du roi David. Vous vous rappelez, Samson, tout ça, ça se passe là-bas. Mais il y a une réponse plus directe pour ceux qui connaissent sont habitués au Mikra. Vous verrez vous-même, dans les récits de l'histoire d'Abraham et de l'histoire d'Isaac, il y a une province qui s'appelle Eretz Pelishtim et qui a pour capitale Vayeshev Yitzhak bi Gerar. Ce nom vous dit quelque chose? Gerar. Bon. Alors Gerar, c'est donc un tout petit territoire, finalement, disons le territoire de Gaza, et aujourd'hui, et qui s'appelle dans ce texte Eretz Pelishtim. Alors vous lirez tout le récit de l'alliance entre Abraham et Abimelech concernant ce que notre verset que je viens de citer dit, qu'Abraham s'est installé dans un pays que, à la suite de l'alliance entre Abraham et Abimelech, le texte nomme Eretz Pelishtim. Tout de suite après, notre verset. Et il arriva après ces événements, et Dieu dit, et Dieu est mis à l'épreuve Abraham. Je crois que je n'ai pas besoin d'interpréter. Abraham accepte que le pays que Dieu lui promet, en promesse d'héritage, soit le pays des Philistins. Alors je paraphrase. Immédiatement après, la Torah nous raconte, le fils que je t'ai donné pour ce pays, puisque tu ne veux pas de ce pays, rends-le-moi. C'est clair. Vaï, ahar, adwari, maël. Bon, ça c'est une lecture de l'événement auquel vous n'êtes pas habitué. Okay? Et pourtant vous lisez les journaux. Alors n'appelez pas ce pays la Palestine, c'est dangereux. Et ce n'est pas la lecture que le Midrash va prendre, mais je vous indique que le lien de cause à effet du point de vue de la conséquence des événements précédents se lie directement dans ce que nous appelons la smichut, c'est-à-dire la succession du récit. C'est clair, okay. Alors vous verrez, dans les chapitres précédents, ça vous allez l'étudier vous-même, il y a une tentative du roi de Philistie d'obtenir une alliance d'Abraham qui reconnaîtrait que le pays en question appartient aux Philistins et non pas à la famille d'Abraham. Et une formule assez claire où le roi de Philistie, Abimelech, dit à Abraham, voici Iné Artsi Lefanecha, voici mon pays est devant toi, installe-toi où tu veux, comme étranger, en ghetto. Et je crois que je n'ai pas besoin d'interpréter plus, vous voyez de quoi parle ce récit. Et Abraham signe, il devait faire partie du Maharar. Abraham, okay. Alors, je reprends notre récit. Vahi, Achar Adorim Ha'ele, Va'elokim Nisa et Abraham. C'est-à-dire, on a appris qu'il y a de toutes les façons des causes directes, des causes secondes, des causes occasionnelles, qui sont, si vous voulez, la raison de cette mise à l'épreuve qui, de toute façon, aurait eu lieu. D'après ce que nous avons appris hier, j'explique un peu pour ceux qui n'étaient pas là hier, c'est-à-dire que 9 fois Abraham a été éprouvé en tant que tzaddik de la Midat HaChesed, et on arrive à l'étape où pour être authentifié comme Abraham d'Israël, il doit être éprouvé par la Midat HaDin. Quelles sont les causes occasionnelles de cette mise à l'épreuve? C'est l'histoire des Philistins, racontée juste avant. C'est le pshat du verset. Et il arriva après ces événements. Quels événements? Eh bien, les événements qui sont racontés précédemment. C'est bien clair. Donc. Et à mon sens, je crois qu'on peut l'expliquer ainsi. Ça, c'est la cause occasionnelle. Le véhicule qui a déclenché la mise à l'épreuve dans sa forme. Mais l'épreuve en question, dans tous les cas, devait avoir lieu. Elle aurait eu lieu sous une autre forme. Parce que finalement, la question la plus abrupte que nous avons en lisant ce texte, pourquoi c'est de cette manière-là que Abraham a été éprouvé? Il y a un midrash on n'a pas le temps de les voir tous, mais je vous renvoie au Midrash, vous les lirez vous-même, un Midrash qui dit que Abraham, il y a les paroles d'Abraham, qui dit, tu m'as donné un fils après tant d'attentes, après tant d'espérances, et maintenant que tu me le donnes, tu me le reprends, dérision. Alors pourquoi cette mise à l'épreuve a cette forme? D'autant plus qu'Abraham est le premier croyant qui va lutter contre les sacrifices humains. Et vous connaissez cette thèse que le récit du sacrifice d'Isaac, c'était pour enseigner à l'humanité que Dieu ne veut pas de sacrifice humain. Et voilà en quoi il est éprouvé, interpellé. Dieu, le Dieu unique qu'il annonce au monde dans cet premier enseignement, il faut mettre fin aux sacrifices humains et les remplacer par les sacrifices animaux. Je vous cite la thèse comme elle est. Je ne coïncide pas exactement d'après nos sources, mais c'est la thèse la plus connue. Abraham se trouve interpellé pour mettre à l'épreuve sa foi. Sacrifie un sacrifice humain et pas n'importe lequel, ton fils unique, celui que tu aimes, le seul que tu as. C'est énorme comme texte. Vous suivez? Donc ça signifie que les causes immédiates qu'il y a dans la première lecture de l'expression Achara Devarim, Devarim les événements, sont importantes. Je pense qu'elles sont occasionnelles, mais elles sont importantes, surtout dans ce principe du Midrash auquel vous êtes déjà habitué. Maase Avot Siman Labanim, ce qui se passe en acte dans l'histoire des pères, c'est un signe de ce qui se passe dans l'histoire des fils. Bon, je n'ai pas à insister là-dessus, c'est évident que toute une partie du peuple juif contemporain est tentée par cette tentation d'Abraham, c'est-à-dire de reconnaître que le pays de la promesse, c'est le pays des Philistins. Alors, ce qui suit en conséquence, eh bien, c'est le texte que nous sommes en train d'étudier. C'est, ça y est, on se réveille. Bon. Et donc, le Midrash, lui, il va lire au niveau de Advarim les paroles. Alors, nous allons suivre toute une série de niveaux du même enseignement. Je vais prendre la dernière page, la page 260 du Midrash. Alors, on établit d'abord la traduction, phrase par phrase. Achar advarim ha'ele. Le Midrash commence par Achar harhore dvarim she'ayu sham. Hirhur, en hébreu, ça veut dire la parole intérieure qui précède la parole exprimée, le hirhur. Quel est le terme français qui traduit cela ? Penser à quelque chose et se le formuler en parole intérieure. Comment on dit cela en français? J'ai oublié. Non. Hirhur, c'est... Vous savez, quand quelqu'un pense à quelque chose, mais il entend sa propre voix, mais non exprimée, c'est le hirhur en hébreu. Je sais qu'il y a un mot en français, mais il m'échappe. Mais si vous comprenez l'idée, ça suffit. Comment dit-on cela en français? Non, hirhur, c'est... Les harher, ça veut dire réfléchir, mais non pas à voix haute, mais à voix intérieure. Bon, vous avez compris l'idée, ça suffit. Okay. Peut-être en cherchant dans le dictionnaire. Achar harore devarim shayusham. Voilà ce que le Midrash dit. Il y a eu des attitudes, des intentions qu'il faut mettre en évidence et qui nous expliquent pourquoi cette mise à l'épreuve a eu lieu. Mi herer. Qui a réfléchi, médité, douté dans sa réflexion? Qui a réfléchi à ce moment-là? Première réponse, Abraham, hirer ve'amar. Abraham, il s'agit d'Abraham qui a dit, Samarti, vesi marti et akol, j'ai été réjoui et j'ai réjoui tous par le fait que il a eu enfin cet enfant promis, Yitzhak. Et un des récits précédents, immédiatement précédents, raconte la fête qu'Abraham a offerte à ses amis le jour où Yitzhak a été sevré. Le jour où Yitzhak a été sevré, c'est le jour où commence sa majorité avant la lettre, son autonomie de créature. Il n'est plus seulement un enfant lié au lait de sa mère, il a déjà autonomie de nourriture, il existe plus qu'au moment de sa naissance. C'est avant la majorité, mais c'est déjà de l'ordre de la majorité. Et Abraham a fait une grande fête et a invité tous ses amis. Donc, Samarti, Vesimarti et Takol. Je me suis réjoui et j'ai réjoui tous. Velo Ifrashti, le Akadosh Baruchu, lo Parechad, velo Ailechad. Et je n'ai mis de côté, je n'ai consacré pour Dieu ni un taureau, un seul, ni un bélier, un seul. C'est-à-dire, Abraham se rend compte que Dieu l'a comblé en réalisant la promesse et que lorsqu'il s'en est réjoui, il ne s'est pas rendu compte qu'il s'agissait d'une joie corollaire à ce que Dieu lui avait donné. Comme s'il n'avait fait aucun lien entre l'accomplissement de la promesse et le fait que c'était une promesse que Dieu lui avait faite. Est-ce que c'est clair cette idée-là? Alors subitement, il s'en rend compte. Pendant la fête, nous avons un Abraham très réel qui est décrit ici. Rappelez-vous comment nous l'avons déjà rencontré hier. Voilà. Une longue attente. L'accomplissement de cette attente arrive. Grande joie, grande fête. Il n'oublie de quoi il s'agissait. Je sais pas, imaginez un Yom HaTzmaout où on ne fait pas de Hallel. Vous voyez à peu près de quoi je parle. Et puis subitement, pendant ce Yom HaTzmaout, quelqu'un se rend compte, mais on a oublié de dire Hallel. Vous avez compris, je trouve ça vache. Et encore une fois, on ne peut pas ne pas être admiratif devant la précision de la préscience du Midrash. Mais c'est plus profond que ça encore. Ça veut dire que ça ne concerne pas tellement notre expérience, ça concerne déjà la racine de notre histoire, l'expérience d'Abraham. Alors on continue. Amarlo Kadosh Baruch Hu, alors Dieu lui a dit, Almenat shenomar lecha, shetakriv li et bincha velo te'akev. Et pourquoi tu n'as pas fait cela? Ça, c'est un peu terrible, mais on va le lire lentement, lentement. Pourquoi tu n'as pas pensé à moi de m'offrir un sacrifice, une parmi les bêtes des troupeaux que tu as sacrifiées pour donner fête à tes invités, Almenat, en vue de, afin que nous te disions, retenez ce pluriel, ça va s'expliquer dans la phrase suivante, Nomar lecha, nous te disions, c'est à Krivli que tu m'offres en sacrifice et Bincha, ton fils, Velot et Akev, et que tu n'empêches pas. Pourquoi c'est arrivé cela, cette apparence de ingratitude? C'est pour que si je te dis, pas si, que quand je te dirai de me sacrifier ton fils, tu ne puisses pas refuser. Je vous traduis, Pshat, ce qui est écrit, hein, je ne montre rien. C'est clair jusque-là? Et cet enseignement, c'est d'après l'opinion de Rabbi Elazar de Amar, qui avait dit Elohim vea Elohim, Elohim vea Elohim. La question de tout à l'heure. Et vous retrouvez la question du pluriel. Okay? Quelle différence il y a entre le mot de Elohim, Elohim, qui désigne la Midat Hadin, et vea Elohim, vea Elohim, comme c'est écrit? Vous avez compris la question? Réponse, Hu ou Bet Dino. Ve ha Elohim, c'est lui et son tribunal. Alors, Elohim, et aussi ha Elohim, c'est lui. Mais Ve ha Elohim, c'est lui et son tribunal. D'où le pluriel. Et quel est ce tribunal? Et après, nous reviendrons plus profondément. Hu Bet Dino, Malaché Acharet Amo. Les anges du service ont dit. Abraham Zé. Cet Abraham, Samar, Vesimar, Takol, s'est réjoui et a réjoui tous. Velo Ifrish, le Akadosh Baruch Hu, il n'a pas mis de côté. Ifrish, le Afrish, ça veut dire le prélèvement de la Trouma consacrée à Dieu. Velo Ifrish, le Akadosh Baruch Hu, lo parecha, velo ailechad, c'est la formule de tout à l'heure, ni un taureau, ni un bélier. Dans les fonctions du sacrifice, le sacrifice d'un taureau, le sacrifice d'un bélier ont des fonctions liturgiques très précises et différentes. Ce n'est pas notre sujet maintenant, mais c'est pour vous expliquer la forme de l'expression et la répétition, ni un taureau, ni un bélier. Amar lahem HaKadosh Baruch Hu, alors Dieu leur a dit, Almenat shenomar lo, c'est en vue afin que, de telle sorte que, puisque tout cela à la fois est, et c'est plus nuancé que ça encore en hébreu, almenat, afin que, nomarlo, nous lui disions, vous retrouvez le pluriel, Dieu s'adresse au Malaché Hacharet, chez Akrivet Beno, Veloyakir, qu'il sacrifie son fils et qu'il ne s'y oppose pas. Voilà le premier midrash. Alors je retraduis maintenant directement en français et puis nous commençons à étudier ce que ça signifie. Alors nous sommes à Al-Darté de Rabbi Lazar, à la fin de la quatrième ligne. C'est selon l'opinion de Rabbi Lazar qui a dit pourquoi est-il écrit dans le verset le mot Veha Elohim? Elohim aurait suffi. Réponse, Veha Elohim signifie lui, Dieu, ou Bet Dino et son tribunal. Les anges du service ont dit, cet Abraham s'est réjoui et a réjoui tous, et il n'a pas offert à Dieu ni un taureau ni un bélier. Alors Dieu leur a répondu, c'est en vue que nous puissions lui dire qu'il sacrifie son fils et qu'il ne s'y oppose pas. Qui peut expliquer ça? Enfin, quelle idée ça vous suggère? Et puis on va étudier. C'est pas ce qu'il y a dans le texte. C'est pas ce qu'il y a dans le texte. Et c'est vous qui interprétez les gens en disant que si Abraham n'a pas offert de sacrifice dans sa fête, c'est Dieu qui l'a empêché. C'est pas dans le texte. Je dirais, pour répondre à votre question, il y a une première lecture. Eh bien, ce fait-là, nous pourrons l'utiliser pour servir à cela, que lorsque nous lui demanderons le sacrifice de son fils, il ne pourra pas empêcher, mais pas plus. Est-ce que c'est clair? Pas une justification. Attendez, alors il faut mettre dans le mot de justification un sens bien précis. Une fois que c'est arrivé, on va donner un sens. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est cause du fait qu'Abraham n'a pas donné le sacrifice. C'est pas dans le texte, hein, c'est clair. Non, vous suivez la même idée? Non, alors expliquez plus. Attendez, sur quelle question nous sommes? Les anges, on va se demander tout à l'heure qui sont les anges dans ce texte. Okay? Les anges disent, eh bien voilà, scandale. Après tous les récits précédents, et finalement tu lui as donné un fils et il s'est réjoui. Et non seulement il s'est réjoui, il a réjoui le monde entier par une grande fête de la naissance d'Isaac, et à toi, il n'a pas consacré un seul agneau de sacrifice, je ne sais pas comment dire, okay? C'est ni un taureau ni un bélier. Alors Dieu répond, j'avance un peu dans la liste que nous avons eue, eh bien nous allons utiliser cela, faire servir cela à ceci. Quand nous lui demanderons de sacrifier son fils, il ne pourra pas refuser. Il faudra qu'il expie. Vous voyez que l'épreuve est pour Abraham, mais jamais le texte n'a dit que c'est Dieu qui l'a empêché de dire le Hallel à Yom HaTzmaout. Vous avez compris l'interprétation, okay? Enfin l'illustration. Okay? Sima est à col. Non, c'est la manière dont le Midrash s'exprime, c'est en ordre. Mais c'est le tout, l'univers entier. Oui, bien sûr, c'est plus que simplement les autres. Et lorsque Isaac est né, le tout du monde était en joie. Bon, ça c'est une autre dimension, mais vous avez compris. Et là, c'est bien clair, hein. Alors, ça veut dire que je suivrai la même ligne d'explication, que cette mise à l'épreuve d'Abraham concerne Abraham. Le fait que, comme j'ai dit tout à l'heure, le fait que Isaac attende ou soit prêt à cette épreuve, parce que Isaac, c'est la créature du côté de la Midatadin, le tzaddik de la Midatadin, qui sait que, inévitablement, il sera confronté à cette interpellation. Il faut que tu te mérites. Mais il n'y a aucune monnaie pour payer le prix de son être, sinon l'être lui-même. Donc il est prêt à ce sacrifice. L'épreuve est pour Abraham. Et alors, les anges prennent acte. Qu'est-ce qui déclenche l'épreuve? Les anges prennent acte de cela. C'est Abraham. Et un autre midrash qui dit « Azakenazé », ce vieux-là, à qui tu as donné un fils, regarde tout ce qu'il a fait comme fait, et à toi, il n'a rien fait de culte, de remerciement, d'hommage. Alors Dieu répond, eh bien cela, on va le faire servir, c'est l'interprétation que je suis en train de formuler, on va le faire servir à cela. Lorsqu'arrivera le fait qu'on lui demandera à son fils, il ne pourra pas refuser. Vous avez compris la nuance? Voilà. Voilà. Eh bien, si vous viviez en Israël, vous comprendriez. Ça fait 2000 ans qu'on attend Isaac. Isaac arrive et on ne se rend pas compte de ce qui se passe.
Deuxième chose.
Est-ce que la réponse suffit?
Non, mais...
Elle ne suffit pas. Il faut identifier
oui,
cela.
Si vous voulez, je vais continuer dans la vérité.
Oui.
C'est que c'est comme chez nous une espèce de résonance avec Job. Lorsque Satan accuse Job.
Plus que ça, il y a un parallèle formel absolu.
Mais
quand même, c'est un peu différent, j'y reviendrai tout à l'heure. Il y a un parallèle formel. Mais vous voyez que dans tous les cas, il y a deux points. La forme de l'occasion de la mise à l'épreuve, c'est une chose. Et d'autre part, la mise à l'épreuve elle-même, elle est dans l'ordre des choses. Ce qui a déclenché l'épreuve, c'est une chose. Et vous voyez, à différents niveaux, si Dvarim, ça veut dire les événements, c'est l'alliance entre Abraham et Abimelech. Si Dvarim, c'est les paroles, nous allons voir toute une série de paroles. C'est finalement Abraham prend conscience d'eux et dit, tiens, je n'ai pas fait de sacrifice. Dieu attendait cela, il dit, ah, tu n'as pas fait de sacrifice. C'est pas grave, tu vas arranger ça. J'ai quelque chose à te demander depuis longtemps. Maintenant, tu ne pourras pas refuser. Compensation. Et puis maintenant, nous sommes dans la deuxième lecture. C'est les anges du service qui disent cela. Alors, si on a compris la distinction, la nuance, je crois qu'on a déjà bien avancé. Ça, je connais pas. Ah, ça, je vous avoue que je connais pas ce midrash. En tout cas, moi, je ne le connais pas. En tout cas, pas dans le midrash rabbah, ça m'aurait frappé, mais ni dans le midrash Sanchuma, ça, je ne connais pas. Ça, c'est plutôt de Job qu'on va le dire. C'est dit en clair dans Job. Que Job faisait une fête chaque jour pour chacun de ses enfants, mais il n'a jamais fait de charité. C'est dit en clair dans le livre de Job. Pas pour Abraham. En tout cas, je ne connais pas. Je ne sais pas si quelqu'un a une référence à ce sujet. Moi, je ne sais pas où j'ai mis mon briquet. Quelqu'un du feu ? Il y en aurait eu une infinité d'autres. Il y a bien entendu une logique directe entre cette occasion et le contenu de l'épreuve, c'est sûr. Mais d'abord, il faut distinguer les deux niveaux. Il y a l'occasion de l'épreuve et l'épreuve elle-même. Ce que je voudrais encore une fois répéter, je crois que ça suffira, l'épreuve en elle-même est dans tous les cas inévitable. Non, c'est peut-être un mot trop dur, parce qu'inévitable, ça voudrait dire nécessaire, c'est pas exactement... Elle est normale, tant pour Abraham que pour Isaac. Pour Abraham, il est le tzaddik la midat hachesed. Avant de clore son chemin dans l'existence terrestre, il faut être éprouvé par la midat hadin. Bon. Pour Isaac, il est le tzaddik la midat hadin. Il doit être interpellé par le fait d'avoir à justifier son maître. Et donc, ici, il n'y a pas de problème. Quelle a été l'occasion? C'est ça ce que le Midrash met en évidence. Alors, pour nous, c'est très important de comprendre cette occasion que le Midrash explique. Et je le dirais déjà peut-être en anticipant un peu sur la suite du Midrash. C'est que, pour Abraham, il ne connaît Dieu que dans le visage de la Midat HaChesed. Par conséquent, pour Abraham, Dieu est celui qui donne, et qui donne gratuitement. Abraham ne peut pas avoir soupçon de ce que c'est Isaac, que ce qui est reçu gratuitement, il faut le payer. Pour Abraham, ce qui est donné gratuitement est donné gratuitement. C'est bien clair. Et par conséquent, puisque pour Abraham, ce qui est donné gratuitement est donné gratuitement, c'est normal que le jour où il fasse la fête pour Isaac, il n'en pense pas du tout à s'acquitter d'un... C'est clair ? J'ai compris. Voilà. Alors, oui, pour recoder avec le temps contemporain, bon, où est la faute, où est la faille ? C'est qu'Israël, c'est Israël, c'est Jacob. Et quand Israël se prend pour Abraham, c'est l'échec. Et quand Israël se prend pour Isaac, c'est l'échec. Et est-ce que c'est clair ? Si on a appris ça à ce séminaire, alors vous avez compris le problème électoral en Israël contemporain. Et vous voyez, je crois que c'est cela qui est en jeu. C'est que nous sommes les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors il y a des Juifs qui sont en dominante fils d'Abraham. Mais s'ils portent l'histoire d'Israël, ça va à l'échec. Il y a des Juifs qui sont en dominante fils d'Isaac. Et s'ils portent l'histoire d'Israël, ça va à l'échec. Il n'y a que les Juifs qui sont fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, qui ont le droit d'être vraiment Israël. Au gouvernement, en tout cas. Bon, vous avez compris ce que je veux dire. Comment ? Que c'est de l'héroïsme. Bien sûr, mais c'est ça Israël. Écoutez, je crois que on va dire c'est un peu décontracté parce que c'est très très pesant ce thème. C'est le dilemme, c'est ou bien être héros ou être zéro. C'est évident. C'est un peu ce que Shakespeare voulait dire. Pardon ? Je ne comprends pas, expliquer.
Quand on demande malgré tout à Jacob d'être plus sa famille,
cette dernière phrase est très claire. Dans l'unité de Din et de Chesed, il y a plus de Chesed que de Din. Et c'est pour ça que ça s'appelle Rachamim. Emet s'appelle Rachamim, parce que dans l'unité que fait Jacob, il y a Chesed et Din, mais penché du côté de Chesed. Vous n'avez pas remarqué que les Juifs en général ont le cœur à gauche. Grâce à Dieu, ils ont la main droite. D'ailleurs, les hommes normaux ont le cœur à gauche et ils sont droitiers. Bon, ça a l'air d'être de l'humour, mais c'est plus grave que ça. Et dans toutes les figurations de la position des patriarches, Abraham est à droite, Isaac est à gauche et Jacob est au milieu, mais la tête penchée vers Abraham. Bon, quand c'est en face, en bas, c'est l'inverse. Okay. Alors, on referme. Bon, l'idée est claire. C'est-à-dire, le Midrash ne nous dit pas qu'Abraham a fait une faute. Abraham est Abraham. Et puisqu'Abraham est Abraham, il est normal que le jour de la fête, eh bien, il n'ait autre chose à dire. Regardez le cadeau que Dieu m'a fait. Et il n'a pas du tout à penser à donner quelque chose à Dieu. Il donne quelque chose à ses hôtes. Il est la Midat HaChesed qui donne. Et alors, lorsque les anges du service se rendent compte de cela, ils accusent Abraham de ne pas être pieux. Alors Dieu leur dit, vous allez voir à quel point il est pieux. Et il explique aux anges, c'est que lorsque j'aurai à lui demander Isaac, eh bien, il ne pourra pas refuser. Voilà, c'est un peu plus clair. Ken ? Ça va ? Alors on avance. Ken ? Oui. Alors, il va prendre conscience qu'il n'est pas Israël, dans le vocabulaire que nous employons, qu'il faut aller plus loin, lorsqu'il s'entend dire Karna et Bincha et Tiridecha. Vous voyez pourquoi Dieu le ménage, le prépare à ce qu'il va entendre. Ça, c'est ce que nous avons appris hier avant-hier, vous vous rappelez ? C'est là qu'il prend conscience qu'il n'est pas encore Israël. Ça va jusque-là. Donc, après, nous verrons, avec le temps qui nous restera, certaines indications dans le texte même qui confirment cette ligne de lecture du Midrash. Alors, encore une fois, je crois que c'est important de mettre en évidence que ce que le Midrash nous enseigne, nous sommes incapables de le voir dans le texte. On pourrait le formuler de cette manière. Le Midrash nous aide à lire chaque verset